L'homme a conscience d'être Dieu et il a raison parce que Dieu est en lui. Il a conscience d'être un cochon et il a également raison parce que le cochon est en lui. Mais il se trompe quand il prend le cochon pour un dieu. Léon Tolstoï. Mille ans d'histoire. Tolstoï avait divisé sa vie en quatre périodes. La période merveilleuse, disait-il, jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis ce qu'il appelait l'horrible deuxième période, 20 ans de dépravation, de débauche, de libertinage, avant de se consacrer exclusivement à sa famille et à son œuvre jusqu'en 1881. Commençait alors la quatrième période, dans laquelle, disait-il, je vis maintenant, dans laquelle j'espère mourir et au sein de laquelle je vois toute la signification de ma vie passée. C'est ce qu'écrivait Tolstoï dans des notes autobiographiques, rédigées 7 ans avant sa mort. Scandalisé par la misère matérielle et morale des paysans russes et l'obscurantisme du régime tsariste et de l'Église orthodoxe, l'écrivain s'était métamorphosé en moraliste et avait renoncé à tout, y compris aux droits d'auteur considérables que lui avaient rapporté ses romans, dont le plus célèbre, Guerre et paix, racontait l'histoire de l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812.
Nous avons aperçu un grand nombre de troupes françaises à la frontière, au bord du fleuve Niemen.
Une colonne tout entière, voire même plus.
Et s'ils font le voyage depuis la France, ce n'est sûrement pas pour rien.
Jusqu'alors, nul ne s'était risqué à franchir notre frontière.
Les Français ont franchi le Niemen, mon général. L'ennemi est en supériorité numérique et nous sommes submergés.
Le 13 juin 1812, les forces de l'Europe occidentale franchirent les frontières de la Russie. Ainsi s'accomplit un événement contraire à la raison et à la nature humaine.
Général Kutuzov, je vous nomme commandant suprême.
Merci, votre impériale majesté. Je ferai tout mon possible pour me montrer digne de l'honneur que vous venez de me faire. Et puisse Dieu nous protéger.
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film « Guerre et paix » de Bondarchouk, inspiré bien sûr du plus célèbre roman de Tolstoï, le premier bien sûr aussi qui vient à l'esprit quand on parle de son œuvre. Et pourtant, ni son œuvre ni sa vie ne peuvent se réduire à « Guerre et paix ». C'est ce que vous rappelez dans un livre publié aux éditions du Rocher à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, le roman de Tolstoï, comme si Tolstoï, au fond, c'était peut-être le meilleur de ses romans.
Je le pense que Tolstoï est le meilleur de ses romans et c'est une clé pour comprendre son œuvre, mais c'est une clé pour comprendre la civilisation russe, mais aussi en quelque sorte de nous, pour comprendre nous-mêmes. Le roman de Tolstoï dépasse en quelque sorte ce qu'il a fait. Il est éminemment moderne aujourd'hui. Il était prémonitoire sur beaucoup de choses, tant de choses qu'il nous alertait sur les choses géopolitiques. Mais sa vie était inattendue. Il y a Tolstoï secret, Tolstoï érotique. Il dit tout sur lui, plus que tous les autres. Tolstoï insolite et Tolstoï, bien sûr, vous avez mentionné avec le film, éminemment historique.
Alors, un Tolstoï qui divisait lui-même sa vie en quatre parties, et en commençant par une jeunesse plutôt heureuse, celle d'un jeune aristocrate russe qui n'est pas né dans la misère. Et pourtant, vous le rappelez aussi qu'il y a quand même eu une grande douleur dans sa vie. Il perd sa mère quand il a 18 mois, son père quand il a 9 ans, mais il est remplacé par des tantes providentielles qui ont fait pratiquement toute son éducation.
C'est la période la plus charmante de la vie du roman de Tolstoï, comme vous dites, parce que lui, il raconte ça comme une sorte de voyage à travers cette Russie pleine de charme, les monastères. Je retrouve, on dit, l'ambiance de la Russie d'autrefois. Ce n'est pas l'ambiance de tsariste, c'est les demeures aristocratiques. Il a lui-même habité une demeure d'exception. Et sans cela, on ne peut pas comprendre Tolstoï. Ça s'appelait Yasnoya Polyana en russe.
Il est né.
Et puis ses frères, et puis ses tantes. Et puis, le réveil sensuel, je disais Tolstoï érotique, mais déjà, depuis l'âge de 13 ans, une seule hantise, c'est la femme. Il était comme Victor Hugo chez vous, mais à la différence de Victor Hugo, il raconte tout, notamment quand il écrit sur son enfance et adolescence. Il voit une petite servante et il ne peut pas se dégager de cette image.
Et en même temps, d'ailleurs, il en a presque peur. Alors, vous racontez une chose assez bizarre parmi ses premiers écrits, parce que sa vocation littéraire, en fait, a été assez tardive. Mais il écrit très jeune, il écrit son programme personnel, des règles de vie. Alors, je les cite, il y en a quatre. Avoir une parfaite connaissance du français, hein, il l'a fait.
Déjà francophile.
Très bien parlé, on l'entendra tout à l'heure. Avoir les ongles longs, nets et bien taillés, savoir saluer, danser, causer agréablement, être indifférent à tout. Si ces quatre conditions, écrit Tolstoï, se remplit, on est un homme comme il faut, car l'humanité se divise en deux groupes, les hommes comme il faut et les hommes pas comme il faut.
Mais ça, c'est tout à fait son milieu aristocratique qui a produit au fait, beaucoup d'écrivains. N'oublions pas que les grands écrivains russes, ils sont souvent originaires de ce centre de la Russie. Ils viennent de ces demeures, les appelle les nids de gentilhommes, mais il vient de ce milieu. Hantise aussi d'être l'homme comme il faut. Il n'a pas toujours réussi.
Non, parce que justement, arrive la deuxième période, justement, cette horrible deuxième période dont parlait Tolstoï lui-même, qui a duré 20 ans, entre l'âge de 14 et de 34 ans, 20 ans de libertinage, de débauche, donc, entre les filles faciles, les fêtes, et puis le jeu, comme dans cette scène célèbre de Guerre et Paix.
Ce genre d'existence te convient mal, ces façons de hussard, cette vie de noces.
À qui dites-vous ?
Ça, je le sais. Il y a beau temps que j'y songe. Cette existence m'empêche de prendre une décision, de réfléchir. Et puis j'ai des soucis d'argent. Je n'irai pas ce soir.
Petroucha, te voilà. Viens ici. À la clan, Kouraguine. Écoutez tous. Si quelqu'un réussit à en faire autant, je lui paie 100 roubles d'or. Qui tient le pari?
He's going to drink a whole bottle of rum sitting on the windowsill.
Il va essayer de boire toute une bouteille de rhum assis sur la fenêtre.
Silence!
Il va y arriver.
Elle est vide. Et à présent, messieurs, on va chez les actrices.
On y va! On y va!
Et on arrive!
La vie de Tolstoï dans cette jeunesse entre 14 et 34 ans, ça ressemblait vraiment, vous le dites, Vladimir Fedorovski, dans votre livre, ça ressemblait vraiment à cette scène de Guerre et Paix. C'était les femmes, c'était le jeu, c'était l'alcool, c'était les fêtes.
C'était aussi la recherche de l'amour, la recherche de soi-même. Mais je dis, à partir de cette période, bien sûr, c'est les pages les plus passionnantes de sa vie, de son roman de Tolstoï personnel. Je dois vous dire que là, il s'éclate. Mais il raconte tout en détail. Tolstoï, c'est un écrivain éminemment érotique. Je dis que c'est peut-être un des plus grands coups du XXe siècle, tout court, parce qu'il se livre, il raconte.
Oui, mais il se livre pour le regretter. Quand il écrit ça, plus tard, ce n'est pas vraiment pour s'en vanter. Au contraire, il est pétri de remords.
C'est difficile à dire. Il y avait, en Tolstoï, ce regard de Tchekhov, il disait, le loup en rut. Il était à la fois à la recherche du mysticisme, mais il était déchiré entre l'amour charnel, entre ce désir de l'amour et finalement aussi ses élans mystiques. C'est peut-être ça, c'était le plus passionnant pour moi pour déchiffrer Tolstoï. C'est tellement inattendu, parce que Tolstoï est souvent, pour nous, un grand prophète, un grand sage. Pas du tout, pas du tout. C'est éminemment érotique, ça va plus loin que Boccaccio. Et je dois vous dire que là, maintenant, on peut reconstituer ça presque femme par femme. C'est ça qui est très intéressant. Toutes ces choses-là, à la différence des autres, il écrit, vous savez, 10 000 pages de son journal. Et là, il entre dans les détails inattendus. C'est la volupté absolue.
La volupté aussi est quelque chose qu'il éprouve terriblement, parce qu'il passe son temps à réclamer de l'argent. Il dilapide celui que lui a légué son père. C'est le jeu, hein, le jeu en permanence. Alors tout ça, cette vie... On a l'impression presque qu'il cherche à y échapper d'une certaine manière en faisant quelque chose que vous rappelez, qu'on oublie souvent, c'est qu'il a été dans l'armée, il était officier dans l'armée impériale. En tout cas, on le retrouve par exemple dans une grande bataille importante, très importante dans l'histoire de la Russie et de la France. D'ailleurs, c'est la guerre de Crimée. Il était à Sébastopol.
Il était à Sébastopol et francophile qu'il était, il a combattu quand même à l'époque les Français. Sébastopol, c'est aussi une sorte de découverte pour lui de quelque chose d'essentiel. C'est la rencontre avec la grande histoire. Et Dieu sait que Tolstoï était visionnaire. Il est tout le contraire, vous savez, de la période qu'on vit. On vit une période à court terme. Lui, c'est un long terme. Il le découvre à Sébastopol. Et puis, il devient peut-être un des premiers grand correspondant de guerre de l'époque. D'où vient son succès ? Parce qu'il participe complètement dans la bataille, il écrit. Encore une fois, il se livre et là, il est publié.
Oui, c'est la campagne de Sébastopol qui est publiée en 1855. Là, il découvre aussi la gloire que peut lui apporter la littérature. Il a très peu écrit avant cette période et c'est ces souvenirs de Sébastopol qui le rendent célèbre. Alors, il va chercher la gloire et il va l'obtenir dans la troisième période de sa vie, une vie de famille auprès de sa femme Sophie, épousée en 1862, puis des 13 enfants aussi qu'elle lui a donnés et qui allait transformer Tolstoï. On écoute sa petite-fille, Tatiana, faire le portrait de son grand-père au micro de Jacques Chancel en 1975.
Il émanait une force. D'ailleurs, il était extrêmement fort physiquement. Il était grand et très fort. Il avait ses yeux magnétiques, clairs, bleu clair, et des gens disaient que quand ils les regardaient, ils avaient l'impression que les yeux de Tolstoï leur sortaient par derrière la tête. Et ma mère dit à un certain point dans ses souvenirs, les yeux parfois tristes et parfois si gais de papa. Et ça, c'est une chose que ma mère toujours disait et insistait, voulait que les gens sachent, que Tolstoï était gai. Tolstoï avait des fous rires et Tolstoï était blagueur.
Il avait de l'humour.
Énormément. Il aimait la gaieté. Il aimait rire. Il aimait les histoires. Il avait beaucoup d'humour. Il était très observateur.
Il aimait la vie aussi. Hein?
Et la nature.
Il a voulu la pauvreté pour la fin de sa vie, mais il a bien profité quand même de son existence.
Mais on peut aimer la vie même si on est pauvre.
Bien sûr.
Un commentaire sur ce portrait de Tolstoï par sa petite-fille que l'on vient d'entendre, Vladimir Fedorovitch.
Subjugante. Mais la chose qui se dégage, c'est qu'il a aimé surtout la vie, le désir de vivre et de vivre dans l'absolu, ce qui est le plus intéressant. Et encore une fois, c'est tout le contraire de clichés qu'on établit comme ça, Tolstoï triste. C'est tout le contraire de cela. Tolstoï nous amène très loin dans la vie, dans la sensualité, dans la volupté des neiges, mais bien sûr dans la compréhension de la nature humaine. C'est un essai exquis. Moi, j'ai passé vraiment des moments les plus exquis. Vous savez, pour voyager avec Tolstoï, on ne peut pas imaginer les monastères, Saint-Pétersbourg. Parce que c'est le moment les plus
Paris,
exquis de mon écriture. Bien sûr, Paris, la compréhension, ou disons les petites flèches envers la politique, la civilisation occidentale bassement matérialiste, tout ça, c'est subjugant.
Et puis sa maison de Yasnaya Polyana, alors là, il n'en sort plus. On est dans une période de sa vie, après son mariage en 1862 avec Sophie, qui est vraiment une vie un peu pépère, rangée. Apparemment, c'est fini les grandes fêtes, etc. Et puis c'est surtout la période pendant laquelle il va écrire ses deux plus grands romans. D'abord Guerre et Paix, hein, l'œuvre de sa vie, dites-vous, Vladimir Fedorovski, puis Anna Karénine.
Bien sûr. C'est la période de la création totale, mais n'oublions pas que quand même, finalement, j'aimais reconstituer, vous savez, la période quand il a dragué sa femme, la gamine de 17 ans,
Sophie,
lui,
ouais.
L'homme a expérimenté, et finalement, il a réussi à la séduire, et elle devient une grande égérie devant l'Éternel, encore une fois.
Elle est un peu à l'origine, au fond, de ses plus grands romans.
Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les grandes égéries, Gala Dali, l'inspiratrice de Matisse. Je la place vraiment dans cette rangée. Il est souvent dénigré, mais quel tempérament ! C'est bien sûr le caractère cochon, disons, mais en même temps, le tempérament volcanique. Et je pense que Guerre et Paix et Anne Karenine et toute la création de Tolstoï n'auraient pu exister sans inspiration de cette grande muse, Sophie, et cette entente charnelle de deux tempéraments.
Bout, oui.
Jusqu'au bout, bien sûr. Ça a marché jusqu'au bout aussi. Les gens ne savent pas. Tolstoï a vécu plus de 80 ans et ça a marché toujours.
Et alors, c'est un homme aussi qui a fait fortune avec ses livres. L'argent, il discutait âprement ses droits d'auteur. Il devient très riche. Mais alors, cet argent, bon, il en profite. Et il l'utilise aussi pour une activité que j'ignorais totalement de Tolstoï, l'éducateur. L'homme qui construit une école près de sa petite ville de Yasnaya Polyana, enfin de son petit, de sa maison de Yasnaya Polyana, et alors qui attache une grande importance à éduquer les enfants du coin, les enfants de paysans, Vladimir Fedorovski.
Bien sûr, ça, c'est
avec des méthodes pédagogiques révolutionnaires.
Bien sûr, c'est un grand pédagogue, il édite le journal pédagogique, mais il voulait le développement de la Russie, et franchement, il symbolise pour moi quelque chose de beaucoup plus significatif. Il symbolise la possibilité de développement de la Russie autrement que par la révolution, autrement par ce collapse qu'on a connu pendant 60 ans. Il était prémonitoire Tolstoï lui-même, mais avec ses réformes, notamment ces activités pédagogiques que vous avez mentionnées, c'est quelque chose de très important pour le développement de la Russie.
Il va au peuple. Hein. C'était un mouvement d'ailleurs de réformistes qui considéraient qu'effectivement, il fallait se rapprocher d'un peuple de Mougis qui, d'ailleurs, il avait des serfs lui-même. Il avait prévu l'abolition du servage qui se produit d'ailleurs pendant sa vie, vraiment le défenseur justement des paysans qui travaillaient, d'ailleurs qui étaient très nombreux à travailler sur ces terres. Et puis alors, c'est brusquement, en 1879-1880, c'est la date que vous donnez, une espèce de métamorphose soudaine, de révolution intérieure qui se produit. Le voilà, dites-vous, maintenant qu'il parle de ne se vouer qu'à la recherche de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une révélation. Je suis persuadé que si on voulait comparer Tolstoï à quelqu'un, il était prétentieux, il était dans la filière de Jésus-Christ ou de Bouddha, mais au-delà de ça, c'est surtout saint Augustin. Il puisait dans le péché pour se rapprocher de Dieu. Les Russes disent, pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher, il a beaucoup péché, et finalement, là, il commence les pèlerinages, là, il y a des révélations. Mais je vais vous dire, en cela, Tolstoï, c'est un écrivain de 21e siècle, éminemment spirituel. C'est pas les recherches banales, disons, ecclésiastiques. C'est une recherche de la vraie spiritualité qui dépasse les frontières entre les religions et les États et qui nous amène loin. J'aurais comparé avec les vieux sages de la Russie éternelle qui prend votre volonté. Il nous amène vers la lumière.
En tout cas, d'un dieu, la recherche d'un dieu très éloigné de celui qu'enseigne l'Église orthodoxe. Vous citez Tolstoï, l'Église depuis le IIIe siècle n'est que mensonge, cruauté et imposture. On écoute Tolstoï dans cette archive extraordinaire enregistrée sur un phonographe que lui avait donné Thomas Edison en 1908, la voix de Tolstoï en français parlant de l'idée qu'il se faisait de la religion.
La religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel qui soi-disant se produisit autrefois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et de certains rites. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine, et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu.
Extraordinaire cette archive.
Extraordinaire, et pour moi c'est une vraie découverte. Je tiens à vous remercier encore une fois, vous faites souvent les choses découvertes. Mais quelle modernité, prémonitoire sur la spiritualité.
Non mais surtout d'entendre la voix de Tolstoï, moi j'ignorais totalement qu'elle existait.
Absolument, absolument. Ça, c'est, pour moi c'est énorme, 1908. C'est une grande émotion pour moi d'ailleurs. Mais je vais vous dire, ce qui dégage tout de suite quand on entend sa voix, il était... C'est vrai, prémonitoire sur la spiritualité. Il suffit de souvenir de la célèbre phrase de Tolstoï de Malraux sur le 21e siècle. Mais au-delà de ça, la peine de mort. un des premiers partisans de l'abolition de peine de mort. Sur le géopolitique, si vous voulez comprendre la géopolitique, lisez Tolstoï au Caucase, vous allez comprendre le danger islamiste et les clivages du monde aujourd'hui. Si vous voulez comprendre la Russie, les slavophiles et les occidentalistes, le déchirement de Tolstoï est bien là. Et finalement, tout banalement, si vous voulez voyager avec la Russie, suivez les pas de Tolstoï à Saint-Pétersbourg, à Moscou et surtout dans les grands monastères russes où on retrouve cette émotion et cette spiritualité absolue qu'on dégage de votre séquence qui m'a tellement ému.
Et puis dans cette séquence aussi, on l'entend effectivement rappeler au fond la part de cochon. Il l'a fait fil dans un écrit qu'on a cité au début. L'homme a conscience d'être Dieu et il a raison parce que Dieu est en lui. Il a conscience d'être un cochon, il a également raison parce que le cochon est en lui. Ce qu'il déplore, c'est que l'on prenne le cochon pour un Dieu.
Hein,
que l'on
merveilleux, ouais, merveilleux. Ouais. Et quel est, oh Dieu sait, ça c'est la modernité. Quel visionnaire aussi, tout le contraire de ce court terme que nous vivons si souvent dans les médias, dans la politique et finalement dans la littérature.
Et en tout cas, une vision des choses qui lui fait renoncer à tout, vous le rappelez, Vladimir Fedorovski, même à ses droits d'auteur. Hein, et, il est le seul à dire que tous ses livres peuvent être recopiés sans droits d'auteur. À la viande, il devient végétarien, au sexe même, hein, dans la sonate à Kreutzer.
Au sexe, c'est plus aléatoire.
Parce c'est que ce qu'il écrit en tout cas dans la sonate à Kreutzer en 1890. Hein, que, oui, enfin, vous
il
dites
conseille,
qu'effectivement,
mais il conseille pour les autres.
Oui, pour les autres. Révolté contre l'Église, révolté aussi contre le pouvoir politique. C'était une espèce d'anarchiste chrétien, au fond, et vous le citez encore dans un texte, et il disait « Tous les gouvernements se valent, quant au mal ou au bien, l'idéal, c'est l'anarchie. » Surprenant.
Surprenant de la part de cet aristocrate. Là, je mets un peu de bémol, parce que, vous savez, il a dominé autrefois l'intelligentsia russe, et l'intelligentsia russe porte une énorme responsabilité pour l'arrivée des bolcheviks. Les bolcheviks, c'était pas nombreux, c'était 1000 personnes, Gauche Caviar, qui étaient basées à Paris, et puis ils ont débarqué. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette préparation, disons, de l'esprit russe par Tolstoï et par les intellectuels.
Alors, bon, c'est un homme donc qui se prive de tout. Vous l'avez dit, mais il faut insister là-dessus, parce qu'à l'époque, ce n'était pas courant. Bon, il était pacifiste, il détestait la guerre. Les descriptions qu'il fait de Borodino, ce n'est pas pour vanter les mérites de la guerre. Certes, il rend hommage au patriotisme des Russes contre les forces de Napoléon, mais le spectacle de Borodino est pour lui une abomination. Il est également non-violent. Vous dites d'ailleurs que Gandhi lui écrivait. Gandhi, à l'époque, était en Afrique du Sud, hein, il n'était pas encore en Inde, et il correspondait avec Tolstoï.
Gandhi était complètement sous l'influence de Tolstoï depuis sa jeune âge. Mais quand on commence ce jeune âge, mais je dois vous dire que quand on commence à citer les Français, Romain Rolland, les grands peintres, les grands écrivains du XXe siècle, les grands esprits, ils ont été tout à fait influencés par Tolstoï. Et très sincèrement, je pense que Dostoïevski, c'était avec Freud et le reste, il était plus écrivain du XXe siècle. Tolstoï, c'est l'écrivain du XXIe siècle qui nous amène très loin et surtout qui nous suggère cette vision qui nous est si nécessaire aujourd'hui.
Et l'inspirateur de Gandhi, dont vous le disiez, dont qui lui écrivait en 1909, c'était l'année d'ailleurs où Tolstoï faisait ses adieux en russe, cette fois-ci, à l'école de Yasnaya Polyana. On écoute à nouveau la voix de Tolstoï, dont vous nous ferez la traduction après, Vladimir Fedorovski.
А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро.
Vous savez, c'est les adieux très émouvants. Et encore une fois, un mot qui revient quand il dit ses adieux, il faut que je vous donne le bien. Je vous amène vers le bien et la lumière. C'est les adieux si émouvants avec les enfants, comme les séquences que j'ai vues encore récemment quand il est venu à Moscou et qu'il a gardé ce regard dont on a parlé, dont sa petite fille a parlé, le regard transperçant. Comme disait Tchekhov, le regard d'un homme. de Lou en Ruth.
Et là, oui, enfin bon, il a quand même 82 ans. C'est la fin de sa vie très pathétique, parce que vous rappelez que cet homme qui était devenu immensément riche grâce à ses livres, notamment Guerre et Paix et Anna Karénine, est un homme qui ne voulait plus d'argent. Mais alors tout le monde se dispute autour de lui son héritage. Il y a une espèce de gourou qui se dit en fait en quelque sorte le gourou d'une religion tolstoïenne difficile à définir. Il y a sa femme Sophie aussi qui veut que ses droits restent avec elle. Il y a une dispute sordide autour de la fortune de Tolstoï.
C'est vrai que c'est vraiment le roman noir de la fin de sa vie. Mais cela dit aussi, quelle fin extraordinaire, le wagon de troisième classe. Quand il voyage, et puis il meurt.
Non, mais faut rappeler, il quitte sa femme. Il a surpris sa femme en train de lire sa correspondance. Il fiche le camp, il en a marre. Il prend un train pour aller à ce monastère. Il prend un wagon de troisième classe. Il tombe malade et il s'arrête dans une gare. C'est là qu'il va mourir.
Il s'arrête dans une gare abandonnée. Il est complètement seul. Mais toute sa vie, il voulait être ermite et il va mourir. Comme l'ermite, comme les grands personnages de ses livres déchirés. Entre Dieu et diable, et finalement qui a retrouvé une sorte de sérénité et la lumière au moment de sa mort.
Et c'était en 1910, il y a 100
Exactement,
ans. Hein.
Il y a 100
on
ans,
parlera ouais. beaucoup de lui cette année, et d'un homme populaire, très populaire en Russie. D'ailleurs, on appréciait presque plus le prophète, en quelque sorte, que l'écrivain encore. C'était un homme qui était vraiment divinisé de son vivant, même s'il avait été excommunié par l'Église orthodoxe en 1901. Et puis, universel, un écrivain universel. C'est vrai que c'est sans doute le plus célèbre, au fond, de tous les écrivains russes, en tout cas à l'étranger.
Bien sûr, c'est le symbole, bien sûr, de la culture, de la grandeur russe, en quelque sorte. Mais il y a, vous avez raison de souligner ce côté universel de Tolstoï. Parce qu'on peut lire Tolstoï à chaque âge, et dans chaque pays, il y a son Tolstoï. Tolstoï, aujourd'hui, quand même, qui est dominé par sa création, par ses chefs-d'œuvre absolus. Je vous ai cité les choses connues, Guerre et Paix, Anne Karénine, mais lisez les choses essentielles, le Caucase, les récits de Sébastopol,
les Cosaques,
c'est essentiel pour comprendre la géopolitique d'aujourd'hui, la Tchétchénie, tout ça, le prophète, mais...
Annonçant la révolution russe qui s'est produite 10 ans après, 7 ans après sa mort.
7 ans, on disait le miroir de la révolution russe prémonitoire, mais si on me permettait, je suis persuadé, c'est pas par hasard qu'il y aura un grand film d'Hollywood qui sort à la fin de l'année, que maintenant les gens sont concentrés sur sa personnalité. Sa personnalité est tellement inattendue, secrète et insolite que ça nous amène très loin. Et finalement, ça nous permet de nous comprendre et nous voyager à travers le temps et dans l'espace, dans la Russie d'aujourd'hui, mais surtout dans les allées secrètes de notre âme.
C'est les allées secrètes que l'on découvre dans votre livre de ce géant quand même qui avait du mérite, parce que la Russie, c'est aussi Tourguenev, c'est Dostoïevski, Gogol, Tchekhov, Pushkin, Gorky, Pasternak, Solzhenitsyn, mais sûrement un des plus grands que l'on retrouve donc dans votre livre, Vladimir Fedorovski, le roman de Tolstoï qui a été publié aux éditions du Rocher. À lire aussi bien sûr les œuvres de Léon Tolstoï, édité notamment chez Gallimard.
Surtout Anne Karénine, qui est une merveille absolue.
Et puis aussi de Dominique Fernandez, ça vient de paraître aussi, avec Tolstoï, publié chez Grasset. Vous avez pu entendre des extraits du film Guerre et Paix de Sergueï Bondartchouk. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Guillaume Lacroux et Fabrice Desmas. Documentation et archives, Clarisse Le Gardien, Jeanne Magnien, Anne-Cécile Perrin et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'indépendance du Congo belge, c'était il y a 50 ans.